Introduction à l'éthique chrétienne par le Père Marie-Dominique Philippe, le 10 mai de l'an 2001 à Saint-Jeudard.
L'obéissance est sûrement un des caractères très particuliers et dans l'ordre pratique, le caractère principal de la morale chrétienne. Je vous l'ai déjà dit, je le répète seulement, rapidement, dans le livre « Éthique à Nicomaque », « Chercher la place de l'obéissance », ceux qui le lisent. L'obéissance est reconnue comme essentiel à une communauté. L'obéissance prend naissance dans le fondement d'une communauté qui est la relation de celui qui commande et de celui qui obéit. Toute communauté commence par une coopération entre quelqu'un qui a l'intelligence pratique, prudentielle pour commander. C'est la prudence qui nous permet de commander. Et un qui obéit, qui reçoit ça. L'autorité philosophique, au point de vue philosophique, apparaît avec la communauté. La communauté familiale, la communauté politique. S'il n'y a plus d'obéissance, s'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus d'obéissance et il n'y a plus de communauté. Chacun tire la boutique comme il veut. Et nécessairement, c'est une dialectique d'opposition et de lutte. C'est ce qui existe actuellement au plan politique en France et dans beaucoup de pays. En réalité, l'aspect de la communauté qui implique une coopération entre celui qui a autorité et ceux qui obéissent, qui exécutent, existe. Si cette coopération n'existe plus, c'est très curieux et c'est une chose très importante à étudier. C'est tout le point de vue de la dialectique du maître et de l'esclave. Au point de vue pratique, c'est un fil conducteur pour étudier les différentes philosophies familiales et politiques. La dialectique du maître et de l'esclave. Alors ça se traduit, le maître et l'esclave, en réalité, c'est la dialectique de celui qui commande et de celui qui obéit. Commander et obéir ne se traduit pas nécessairement par maître et esclave. C'est déjà une herméneutique très particulière. C'est une interprétation tout à fait particulière. Mais cette question du maître, de celui qui commande et celui qui obéit, est dans Aristote. Elle n'est pas dans Platon, elle est dans Aristote, au niveau de la communauté familiale. Dans la communauté familiale, il y a obéissance entre celui qui commande, les parents, et les enfants. Il n'y aurait pas de famille, et la famille est détruite dès que l'enfant n'obéit plus, dès que les parents n'ont plus obéissance. Vous voyez ? Alors, vous voyez actuellement jusqu'à quel âge un enfant obéit. À Paris, à Marseille. Au point de vue purement humain. Et c'est ça qui permet à la communauté d'exister. S'il n'y a plus une coopération entre celui qui commande et celui qui obéit, ça ne peut pas durer très longtemps. Ça ne peut pas durer très longtemps. Parce que là, c'est une dialectique de force qui s'établit. Une dialectique de force qui s'établit à l'extérieur par le pouvoir, le suffrage universel, et on falsifie le suffrage universel très facilement. Le suffrage universel n'est pas philosophique. Hein. Le suffrage universel, c'est une manière particulière de désigner le maître, celui qui commande. Mais au point de vue philosophique, c'est un moyen. Et un moyen très fragile. Voir ce que Cicéron dit sur le suffrage universel. C'est Cicéron, je sais bien, c'est pas un philosophe. Il est philosophe quand même, un peu, mais il est surtout rhéteur. Et c'est intéressant de voir ça. Vous voyez, c'est une étude très intéressante, du reste, à étudier ce point de vue du maître et du disciple, du maître et de l'enfant, du maître et de celui qui exécute, du maître et de l'esclave. C'est très intéressant à étudier, parce que ça se retrouve dans toutes les philosophies qui parlent de la famille et de la politique. C'est donc quelque chose qui est capital. Aristote reconnaît que l'enfant doit obéir, que la femme, ça c'est la vision grecque, doit obéir. En philosophie, très peu, en dehors de là, très peu, l'homme obéit à la loi qui est dans la communauté. La loi, il faut obéir pour que la communauté existe. Mais l'astuce joue beaucoup en Grèce, hein, surtout au point de vue politique. On peut arranger la loi dans son sens, de sorte que l'obéissance est très peu. Au point de vue chrétien, dans l'Ancien Testament, on voit que l'obéissance va très loin. Je vous rappelle l'offrande du petit Isaac à Abraham. C'est un cas extrême de l'obéissance. Et c'est intégré dans la conception même, dans l'Ancien Testament, de la loi, de la volonté de Dieu. Puis après, ce sera la loi avec Moïse. Et qu'Abraham, c'est la volonté de Dieu. C'est à l'intérieur de la famille. Et c'est un cas extrême. Et au point de vue chrétien, c'est la mort de Jésus à la croix. Vous voyez ? J'ai oublié de dire qu'au point de vue ancien, la mort de Socrate était aussi un exemple constant, l'obéissance à la loi. L'obéissance à la loi est devenue dans l'Antiquité quelque chose de très important. Avec Sénèque et le stoïcisme. Mais pour Aristote, c'est beaucoup moins important à cause de la prudence. On obéit à la loi toujours avec le point de vue de la prudence. Savoir si cette obéissance est pour nous. Tandis que les stoïciens prennent une obéissance à la loi beaucoup plus aveugle, beaucoup plus absolue. C'est le stoïcisme où la loi devient tout. en vie chrétienne, donc dans l'Ancien Testament, on voit très bien que l'obéissance à Dieu est souveraine. Avec la loi, Moïse, l'obéissance est aussi quelque chose de très important. Avec le christianisme, à un moment donné, c'est pas très vieux, c'est sitôt après le concile de Trente, le concile Vatican II, certains, je le sais, ont prêché que la vie chrétienne supprimait l'obéissance et mettait la charité au-dessus de tout. Évidemment, il suffit de regarder l'Évangile pour comprendre la place de l'obéissance. À Cana, ceux qui servent le vin, c'est une fameuse obéissance. Et c'est le premier acte de Jésus dans sa vie apostolique. Demander à des servants de vin de remplir d'eau les cruches liturgiques réservées à la liturgie. C'est un acte d'obéissance héroïque. L'acte d'obéissance que Jésus demande à ses apôtres. Ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Jésus commande de jeter le filet, ils le font. Et Jésus lui-même, à la croix, montre que l'obéissance au Père est au-dessus de tout. Ce n'est pas une obéissance stoïcienne. Hein. Elle pourrait avoir une ressemblance, puisque elle est absolue. Mais elle n'est pas stoïcienne, puisque l'obéissance du Christ à la croix est une obéissance d'amour, de fils bien-aimé à l'égard du Père. C'est une obéissance qui regarde la finalité avant tout. Elle regarde le moyen, la croix, mais toute plongée dans la finalité. Manifester la gloire du Père, réaliser la gloire du Père. Et nous sauver. C'est par la charité que l'obéissance en vie chrétienne prend cet absolu de la croix du Christ. Imiter la croix du Christ, l'imitation de Jésus-Christ. L'imitation de Jésus-Christ, ce livre de spiritualité qui a joué un rôle extrêmement important, est basé sur le point de vue de l'absolu de l'obéissance. Le stoïcisme est apparu en vie chrétienne avec le jansénisme. Ou alors l'obéissance aveugle est devenue très importante. Dans la spiritualité ignatienne, l'obéissance est également mise très en lumière au point de vue chrétien. Dans la vie monastique, par les vœux, l'obéissance est mise en pleine lumière aussi. Mais elle a des types différents. Selon l'Écriture, on voit ces types différents de l'obéissance. Il y a l'obéissance militaire, Saint Ignace. Il y a l'obéissance du serviteur. Il y a l'obéissance de l'ami. Il y a l'obéissance de l'enfant. Et c'est dans l'Écriture, ça. Si vous faites une petite enquête sur l'obéissance, vous verrez que toutes ces modalités de l'obéissance sont présentes. Et vous verrez que Jésus, à la croix, c'est l'obéissance de l'enfant, du serviteur, de l'ami. l'obéissance du serviteur, c'est accomplir la tâche demandée. L'obéissance de l'ami, c'est entrer profondément dans l'intention de l'ami. L'obéissance de l'enfant, ça regarde avant tout la manière de faire l'acte d'obéissance. Le contenu est volatilisé par la manière de le faire. La mère demandera aux enfants, reste tout proche. Peu importe ce que tu fais, reste tout proche. Que je te vois. Dans la perspective de la présence. Occupe-toi comme tu veux. C'est juste l'inverse du serviteur. Si on pousse jusqu'au bout, le serviteur, on lui dira, fais le mieux que tu peux, tu le sais ça, le tout c'est que ce soit fait. Et on retrouve ça dans la vie religieuse. C'est très curieux. Les manières, vous voyez, si on veut étudier les modalités différentes de la vie religieuse, c'est sur l'obéissance qu'on voit les plus grandes différences. L'obéissance ignatienne, l'obéissance dominicaine, l'obéissance bénédictine, l'obéissance cistercienne, monastique, très différent. Et ça, tout ça fait partie de l'obéissance chrétienne. Parce que quel est le modèle de l'obéissance chrétienne? C'est l'obéissance du Christ à la croix. Or, l'obéissance du Christ à la croix, c'est l'obéissance du Fils, de l'enfant. Il ne discute pas sur ce qu'il doit faire. Et il voit avant tout la manière aimante de faire son geste d'obéissance. Jésus obéit à la croix, non pas du tout comme un serviteur, mais comme un enfant, comme un fils. Et c'est cela qui est avant tout dans la vie monastique. Et quand on parle de la vie monastique et non pas de la vie religieuse, beaucoup, même quelquefois chez Saint Jean, beaucoup aiment mieux dire l'obéissance religieuse. J'ai encore entendu ça il n'y a pas longtemps. Alors, on reprend l'obéissance ignatienne. L'obéissance monastique, c'est beaucoup plus l'obéissance de l'enfant. À tel point que, dans la vie monastique cistercienne, bénédictine, le moine reste toujours un peu un novice. Or, au noviciat, ce qu'on demande avant tout, c'est d'apprendre l'obéissance de l'enfant. C'est ça qu'on demande avant tout. C'est pas l'obéissance du serviteur. Et on a beaucoup de peine à passer de l'obéissance du serviteur à l'obéissance de l'enfant. L'obéissance de l'enfant est plus en liaison avec la charité, avec l'amour. On obéit par amour un enfant. Et il y a quelquefois la caricature, l'enfant obéit parce qu'il a peur de la claque, il a peur du fouet, alors il obéit. Mais ça, ce n'est pas l'obéissance de l'enfant. L'obéissance de la crainte timorée, tandis que l'obéissance de l'enfant, c'est une crainte chaste. Il n'obéit pas par crainte, il obéit par amour. Et donc, je crois que l'obéissance chrétienne est avant tout l'obéissance de l'enfant, c'est-à-dire monastique. C'est l'obéissance de l'enfant, du petit, ouais, qui ne discute pas et qui fait tout par amour. L'obéissance du serviteur, il discute. Il faut discuter quand même avant d'obéir. Savoir si c'est vraiment raisonnable. Ben, ça, c'est l'obéissance du serviteur. Il discute. Il discute sur l'impérium qu'il reçoit. Est-ce que cet impérium est légitime ? Est-ce que cet impérium n'est pas légitime ? Alors, il y a toujours ces deux. Alors, dans certains cas, c'est l'obéissance du serviteur. Dans d'autres cas, c'est l'obéissance de l'enfant. Voyez, quand nous sommes responsables d'une communauté, on ne peut pas avoir uniquement l'obéissance de l'enfant. Parce qu'on est responsable d'une communauté. Alors on est obligé de discuter. Si on a une responsabilité importante, on ne peut pas obéir comme un enfant, puisqu'on est responsable de quelque chose. On est responsable par obéissance à Dieu. Et dans les actes des apôtres, on voit Simon-Pierre qui il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il dit ça. Et les hommes, c'est des hommes religieux. Alors quelquefois, ça va jusque-là. Obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu, on est toujours comme des enfants vis-à-vis de Dieu, des tout petits. C'est pour ça que c'est l'obéissance monastique. Elle est directement théologale. Tandis que l'obéissance du serviteur, elle passe par la prudence. Vous voyez ? C'est tout ça, notre vie chrétienne, elle se noue dans l'obéissance. Et on voit très bien qu'il y a des façons différentes de nouer la communauté. Est-ce qu'on la noue comme des serviteurs ? Est-ce qu'on la noue comme des enfants ? Des enfants bien-aimés. Et là, il y a toute cette éducation à faire par l'Esprit Saint. La théologie doit voir cette diversité de l'obéissance. Elle doit l'enseigner. Voulez-vous être des enfants vis-à-vis de Dieu ? Voulez-vous être des serviteurs ? Quand on est serviteur, on a sa prudence et on discute. Quand on est enfant, on aime. Et toute obéissance sera une marque de vouloir montrer notre amour. Elle est directement liée à l'amour, à la charité. Alors, si je dois traiter de l'obéissance au point de vue vie chrétienne, je montre que la vie chrétienne va de fait assumer tous ces types différents d'obéissance pour imiter le Christ dans son acte d'obéissance au Père. Abraham, quand il obéit, est-ce une obéissance de serviteur ? Non. Il aurait discuté. Il aurait dit à Dieu, « Tu as promis que j'aurai la descendance. Or, maintenant, tu veux la supprimer. » Je ne peux pas obéir. et le pays comme un enfant. Sans regarder le résultat de l'obéissance, mais en regardant que l'acte d'obéissance exprime son amour pour le Père. Vous voyez, c'est le rapport obéissance et amour, donc la prudence, l'obéissance et l'amour. Si on regarde que l'obéissance est une manière pour nous d'exprimer notre amour, on ira très loin. Si, au contraire, on regarde la tâche que Dieu nous a donnée à accomplir, si on regarde les résultats, on regardera la prudence et on discutera. Abraham s'est discuté avec Dieu. Pour Sodome et Gomorre, il a discuté avec Dieu. Et pour son enfant, il n'a pas discuté avec Dieu. Pour Sodome et Gomorre, Abraham a discuté. S'il y a 30 justes, 40 justes, s'il y en a 15, s'il y en a 5, il discute. Il n'avait pas tout de suite. Il s'est dit la destruction de Sodome et Gomorre, de deux villes qui lui appartiennent, et de deux villes où se trouvent deux cités, où se trouve son parent Lot. Oui, c'est très complexe l'obéissance, hein. C'est pas facile du tout, faut pas dire que c'est simple. Tout acte d'obéissance exige un acte de prudence. Tout acte de prudence chrétienne est transformé par la charité. Alors, dans certains cas, c'est la charité directement qui commande mon obéissance. Dans d'autres cas, la prudence est là pour intervenir. Et le résultat est tout à fait différent. Parce que la charité est la forme de toutes les vertus, et qu'elle l'est particulièrement de l'obéissance, on comprend très bien que lorsqu'il s'agit de l'obéissance, la charité est là pour transformer l'obéissance. Alors, regardons l'acte même d'obéissance, après avoir vu ces modalités différentes. L'acte d'obéissance est un acte que nous faisons toujours à deux. Celui qui commande et celui qui obéit. On n'est donc jamais seul dans l'obéissance. On doit regarder celui qui nous commande. Et on marche la main dans la main. Et l'acte d'obéissance est un acte qui prolonge l'impérium de celui qui me commande. Je fais tel acte par amour pour vous. Et je le fais consciemment par amour pour vous. Dans tout acte d'obéissance, il y a cette remise de notre acte prudentiel entre les mains de celui à qui on obéit. Et cela est possible dans l'acte d'imperium. Vous ne pouvez pas faire ça, cette remise, quant à vos intentions. Elles sont personnelles. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'avoir les mêmes intentions que vous. Non, c'est personnel, ça. Je respecte ses intentions. Mes intentions sont différentes. Mais dans l'acte d'obéissance, il y a cette chose très curieuse, c'est que l'imperium du supérieur, je le fais mien. Et ceci est possible parce que c'est un acte d'intelligence. C'était un acte d'amour, premièrement, je ne pourrais pas faire ça. Mais l'intelligence a toujours un mode universel, même quand il est pratique. Il y a quelque chose qui permet la communication de cet imperium. C'est l'imperium du supérieur qui devient mon imperium. Mais cette unité se fait dans le commandement, où celui qui commande et celui qui obéit fusionnent. Il y a une fusion. La fusion dans l'amour provient d'un amour passionnel qui n'est pas juste. On ne fusionne jamais dans l'amour. Fusionner, c'est perdre sa personnalité. Dans l'amitié, on respecte l'autre, l'ami. Et on le respecte dans ses intentions profondes. Dans l'acte d'obéissance, il y a cette fusion de ce que veut il y a cette fusion entre celui qui commande et celui qui obéit. Et la fusion la plus parfaite dans l'obéissance, on a le droit de demander à celui qui commande, dites-moi bien ce que vous me demandez, précisez-moi, parce que les circonstances dans lesquelles j'obéirai sont différentes. Alors, précisez. Donc il y a union dans l'imperium. On prend l'imperium du celui qui me commande, je le fais mien. Et je puis le faire, ça. Parce que c'est un acte d'intelligence. Alors, cet imperium est commandé par une fin. Cette fin n'est pas toujours celle qu'on regarde. On lui dit, j'obéis parce que vous me le demandez, mais je ne suis pas en accord avec votre fin, avec votre finalité. Et l'obéissance me demande d'entrer dans, je ne dis pas d'accepter, de fusionner dans ses intentions, non. L'obéissance regarde l'impérium, ne regarde pas l'intention. Les intentions peuvent être diverses. Très souvent, on confond, parce qu'on n'obéit pas vraiment. On ne comprend pas ce que c'est que l'obéissance. On croit que l'obéissance demande la fusion des intentions. Non, pas du tout. On obéit pour exécuter ce qui est demandé. Et ce n'était pas du tout notre intention de passer par là. Mais on passe par là. On change de chemin, on change d'instrument, on change de métier dans l'obéissance. C'est le point de vue de l'imperium. C'est très important, ça, pour comprendre ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance de l'enfant, l'intention est beaucoup plus présente. Vous voyez ? Puisqu'on ne regarde plus ce qui est fait, ce qui doit se faire, on regarde l'intention, pas l'intention profonde. Alors, on peut aller assez loin en recevant. Il y a donc des qualités très différentes dans l'obéissance. L'obéissance de l'enfant consiste à accepter que une manière différente d'adopter l'impérium. Mais on l'adopte, mais toujours on le prend, mais d'une façon différente, parce que l'impérium du père quand il commande à ses fils, l'impérium de la mère quand elle commande à ses filles, est différent de l'impérium de l'officier qui commande à l'homme de troupe. Différent. Et par le fait même, l'obéissance est différente. Ce qui est très important à comprendre, puisque dans l'obéissance, on se sert de l'impérium du supérieur, de celui qui a autorité sur moi. Et dans la mesure où il a autorité sur moi, j'obéis, puisque on prend l'impérium du supérieur, la responsabilité du supérieur demeure dans l'action qui se fait par celui qui obéit. Celui qui obéit n'est pas seul responsable, il obéit, et donc celui qui commande et celui qui obéit, tous les deux sont responsables. Et celui qui commande est plus responsable que celui qui obéit. Et il faut faire, quand c'est, on est devant un acte d'obéissance très difficile à faire, on leur dit, très bien, mais vous êtes responsable de tout ce qui en passera, de toutes les conséquences de cet acte. C'est vous, j'obéis. Puisque vous êtes pour moi l'autorité, vous êtes pour moi le représentant de Dieu, j'obéis. Mais cet acte d'obéissance est tellement important que c'est vous qui êtes responsable de toutes les conséquences. J'ai été responsable en me mettant dans une situation telle qu'elle exige de vous de faire cet acte-là. Mais le résultat de votre décision, c'est vous qui en êtes responsable. Et moi, j'obéis. Parce qu'on croit très facilement qu'on n'a qu'à obéir, on se lave les mains. Alors ça, c'est pas vrai. Dans l'obéissance, les deux sont un. Et donc, il est responsable, et celui qui commande est plus responsable que celui qui obéit. Dans une communauté, c'est comme ça. Si ce jeu permanent entre celui qui commande et celui qui obéit, le Père et le Fils à la croix. Le Père est totalement responsable de la croix de son Fils. Et le Fils est totalement responsable de s'offrir. Et ne pas accepter cette responsabilité à l'égard de l'action de celui qui obéit, c'est un manque de courage. C'est abdiquer son autorité. L'autorité, au contraire, est vraiment ce qu'elle doit être quand quelqu'un obéit pour exécuter ça. L'obéissance est de l'ordre de l'exécution. Et par le fait même, elle est ultime dans l'acte humain. Elle est ultime. Tout s'achève dans l'obéissance. Tout s'achève, en théologie, en éthique chrétienne, dans le Christ à la croix, qui meurt à la croix. C'est l'acte d'obéissance ultime, dernier. C'est toujours quelque chose d'ultime, l'obéissance.